Nous allons parler cet après-midi des trois visions possibles de l'homme. Jésus accomplit de nombreux miracles. Il est même dit à la fin de l'évangile de Jean que tous les miracles que Jésus accomplit pendant les 3 ans qu'a duré à peu près son ministère public ne sont pas tous racontés dans l'évangile. Puisque à la fin de son évangile, au chapitre 20, verset 30, il est écrit, « Jésus a fait, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc Jésus a fait de nombreux miracles. On peut dire qu'il a fait une vingtaine de miracles, en classant un petit peu les miracles, une vingtaine de miracles particuliers, dont 5 sont des miracles opérés sur des aveugles. Donc 25% environ. Le miracle que nous venons de lire dans Marc chapitre 8 à partir du verset 22, peut être considéré comme un cas exceptionnel. Pourquoi ? Parce que d'ordinaire, dans l'Évangile, quand Jésus guérit un malade, soit il prononce une parole, soit il touche le malade, soit il lui donne un ordre, par exemple d'aller se laver les yeux, et il revient et il est guéri. Alors qu'ici, Jésus touche une première fois le malade, qui est aveugle, et le malade commence à voir. Je dis bien commence à voir. Mais la Bible dit, il dit à Jésus, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Vous savez très bien, pas difficile, même un enfant pourrait le deviner, cela, enfin le savoir, qu'un homme ne ressemble pas généralement à un arbre, quel que soit l'arbre que l'on prend. Mais on sait également qu'un arbre ne marche pas. D'où le double problème. Cet homme a été touché par Jésus pourtant, et il commence à voir, mais il voit une chose étonnante, une chose bizarre, une chose qui n'est pas naturelle. Il voit les hommes, mais il trouve qu'ils ressemblent à des arbres, et il marche. Alors, que des hommes marchent, c'est normal. C'est peut-être plus le fait que l'homme ressemble à un arbre qui gêne, qui paraît être curieux. Alors Jésus le touche de nouveau, il lui met de nouveau les mains sur les yeux, et là, l'aveugle regarde à nouveau, et il est dit, il fut guéri, et il vit tout distinctement. J'aimerais partir de cette histoire cet après-midi et parler des 3 visions de l'homme, en général. Cet homme a connu pendant sa vie 3 visions différentes. Jusqu'à ce jour, imaginons qu'il avait une 40aine d'années environ, quand ce miracle s'est produit. Il n'est pas dit que c'était un vieillard. Bon, on va dire qu'il avait une 40aine d'années, plus ou moins. Pendant 40 ans, cet homme ne voyait rien. Sa vision dépendait, en fait, sa connaissance dépendait de ce qu'il entendait, de ce que lui avait raconté. Donc, il pouvait avoir des préjugés. Sa vision était inexistante. Puis, Jésus l'a touché et il a acquis une vision. Là, il voyait quelque chose que nous venons de décrire, mais ce qu'il voit, ce n'est pas tout à fait normal. Et ensuite, Jésus le touche de nouveau, pardon, et il voit très bien. Je crois qu'il existe, grosso modo, 3 visions possibles pour un homme. Nous allons parler cet après-midi d'abord de la vision de l'homme que je vais appeler aveugle, c'est-à-dire l'homme qui voit sans voir, qui voit sans comprendre ce qu'il voit, C'est la vision que j'ai appelée la vision de l'homme naturel, l'homme sans Dieu. La deuxième vision, je vais l'appeler la vision imparfaite, la vision faussée, c'est la vision que j'appellerai la vision de l'homme religieux. Et la troisième vision, c'est la vision que j'appellerai la vision de l'homme spirituel, qui a été touché parfaitement par Dieu, comme cet homme a été touché une deuxième fois parfaitement par Jésus. Je vais commencer par une petite histoire. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années aux États-Unis, une histoire vraie. Un homme et sa femme dorment paisiblement dans leur maison aux États-Unis. Et dans la chambre, il fait plutôt sombre, c'est la pénombre, on distingue juste les formes des meubles, c'est tout, mais on ne voit rien distinctement, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de lumière. Et ils dorment paisiblement quand le mari entend un léger bruit. Alors il ouvre les yeux, il se réveille, il ouvre les yeux, et il voit une silhouette qui rentre dans la chambre. Alors, comme on est en Amérique, enfin aux États-Unis, vous allez comprendre pourquoi je dis cela, il passe le bras le long de son lit, et qu'est-ce qu'il prend sous son lit ? Un fusil, parce qu'on est aux États-Unis. Il prend son fusil et tout doucement, sans faire de bruit, il met en jougue à la silhouette et il tire. Alors évidemment, sa femme sursaute, on sursauterait à moins que cela, et il allume la lumière, sa femme lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ?» Il dit « C'est rien, j'ai tiré sur un voleur qui rentrait dans la chambre. » Il allume la lumière, il sort de son lit et il va voir. Le corps est là, inerte, par terre, et il reconnaît son fils. Parce qu'il faisait sombre, il a tiré sans savoir, croyant que c'était un voleur, mais en réalité c'était son fils, et bien sûr il l'a tué. La vision de l'homme naturel est une vision aveugle. La Bible dit que sans connaître Dieu, l'homme marche dans les ténèbres. Il ne voit rien, il interprète mal tout ce qu'il voit. C'est une vision que nous connaissons bien, nul n'est besoin de s'y attarder longtemps, car nous la côtoyons tous les jours. C'est la vision de l'homme ordinaire, elle est fondée par exemple sur l'apparence. On croit voir quelque chose et c'est autre chose. Elle est nourrie des apparences, bien sûr. On dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Mais on vit en fonction des apparences très souvent. L'homme vit souvent en fonction des apparences. Parce que quelqu'un présente bien, parce que quelqu'un est gentil, aimable, on lui fait confiance. Mais il y a bien des gens qui paraissent gentils et aimables et auxquels il ne faut surtout pas faire confiance. Combien de fois avons-nous entendu à la télévision dire, alors que quelqu'un venait de commettre un crime, on interviewe ses voisins, ses parents, « Mais c'est pas possible que ce soit lui ». C'est quelqu'un de bien, très gentil, très serviable. Et pourtant, cet homme ou cette femme, très gentil, très serviable, peut-être même très beau, présentant très bien, sans histoire, généralement on est sans histoire, eh bien, a pourtant commis l'irréparable. Et pourtant, les préjugés sont coriaces. Un sociologue a même dit que selon certaines études, moi je me méfie des études, parce qu'on leur fait dire beaucoup de choses. Un sociologue a même dit que selon certaines études, à l'école, écoutez ça les jeunes, les beaux élèves ont un peu plus de chances d'être de bons élèves. Oui, il y a de quoi douter. Je ne me rappelle plus quand j'étais au lycée si mes copains étaient beaux, ou si les beaux étaient aussi des bons élèves, ça ne m'a pas marqué en tout cas, parce que sinon je me serais posé des questions. Je me serais d'abord demandé si j'étais beau ou pas. Et puis, bon, ce n'est pas irrémédiable, bien sûr, mais cela montre la force des préjugés. Une autre étude a montré qu'il semble que les gens qui sont grands et beaux ont plus de chances de trouver un travail. C'est vrai que si vous arrivez un petit peu abîmé, mal habillé chez un employeur, chez un éventuel futur employeur, ça ne facilite pas les choses. On est plus impressionné par quelqu'un qui présente bien, qui est bien habillé. Si en plus, il ou elle, s'il est beau ou elle est belle, alors on se dit, ah, voilà quelqu'un de bien. Et ce sont des préjugés. C'est l'homme naturel qui pense cela. Je signale simplement au hasard que la Bible dit que Jésus n'avait rien qui attire les regards. Alors certains en ont jugé, non, je lisais récemment un livre où l'auteur disait que probablement Jésus n'était pas beau. Mais qu'est-ce que je vais dire là? Je vais me faire mal voir, parce que dans tous les films où on montre Jésus, pendant très longtemps on a monté Jésus comme un beau blond aux yeux bleus, oubliant qu'il était quand même juif, habitant en Israël, et que des beaux blonds avec des yeux bleus en Israël, je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément, comme dans le pourtour méditerranéen en général. Mais heureusement que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Cela nous console si nous ne sommes pas convaincus d'être très beaux. L'importance des préjugés est très grande dans le regard, dans la vision de l'homme naturel. Même dans la Bible, nous retrouvons cela. Pensez simplement à l'incident qui a marqué le choix par Samuel, le prophète Samuel, de David comme futur roi d'Israël. Ce récit est plein de préjugés. On trouve d'abord le préjugé de Samuel qui, sachant simplement que le futur roi est l'un des fils d'un certain Isaïe, qui en a 7, demande à voir tous les fils et lorsqu'il voit les fils arriver, il voit l'aîné qui apparemment doit être un peu plus grand que les autres, en tout cas le père lui fait comprendre que c'est l'aîné, et tout de suite il se dit voilà l'homme que Dieu a choisi. Pourquoi ? Parce que c'est l'aîné. Il faut dire que dans la civilisation de l'époque, dans la société juive de l'époque, l'aîné avait un rôle important et il avait même droit à une double part d'héritage au décès de ses parents. Donc, il y avait un fort préjugé qui voulait que ce soit toujours l'aîné qui succède, qui est la tâche la plus importante. Deuxième préjugé dans cette histoire, lorsque David, ayant été choisi pour roi, se rend un jour sur le champ de bataille pour rendre visite à ses frères, qui sont guerriers, lui est encore un petit jeune adolescent, son frère qui le voit arriver le considère comme quelqu'un de pas important. Il lui dit « Mais comment se fait-il que tu es venu sur le champ de bataille ?» Alors que tu as un tout petit troupeau à garder, un tout petit troupeau, tout ça pour le diminuer. Préjugé également du roi Saül, qui lorsque David se propose d'aller se battre contre le géant Goliath, qui fait certainement plus de 2 mètres, voire 2 mètres 30, 2 mètres 40 à peu près, lui dit « Mais tu ne peux pas aller te battre, tu es trop petit !» Ainsi, nous voyons que dans la Bible, et je pourrais en citer d'autres, il y a des tas de préjugés. Pourquoi ? Parce que la Bible reflète simplement la vie de tous les jours. Elle n'invente rien. Elle décrit l'homme tel qu'il est en général. Et même si les récits de la Bible datent de plus de 2000 ans, et celui-là de 3000 ans, l'être humain n'a pas changé entre-temps. Aujourd'hui, à part la technologie qui a progressé, évidemment, depuis 3000 ans, l'être humain n'a pas changé, au fond. Alors la Bible ne fait que refléter la vie. Le préjugé est toujours là, il s'appuie sur une certaine connaissance, comme l'homme aveugle s'appuyait sur une certaine connaissance, celle que lui avaient inculquée les autres et celle qu'il devinait par les bruits qu'il entendait, puisqu'il ne voyait rien. Sur certains principes également, on voit qu'il y a encore aujourd'hui ce regard porté, ce regard qui est fondé sur l'apparence ou sur des traditions, sur des habitudes. Par exemple, on part parfois du principe que le fils doit faire le même métier que le père. Certains pères qui exercent un certain métier veulent à tout prix que leur fils fasse la même chose. J'ai même vu, pour aller plus loin, qu'un père se réjouissait un jour, j'ai vu cela à la télévision quelques années en arrière, on montrait une école dans un village qui venait d'être rouverte. Alors tous les gens du village étaient heureux que l'école avait enfin rouvert. C'était une classe unique pour un tout petit village. Il y avait des enfants qui allaient de 6 ans à 11 ans et on les mettait dans la même classe. Alors bon courage à l'instituteur pour s'occuper des différentes classes d'âge, Bon. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est surtout qu'ils ont interviewé un père de famille, donc il y avait un enfant qui allait fréquenter cette classe, qui lui-même avait été élève dans cette même classe. Il était d'autant plus heureux que la classe dans laquelle il avait fait ses études primaires allait rouvrir. Et alors, quand le journaliste lui a demandé ce qu'il en pensait, il a dit « Je suis très heureux de voir l'école rouvrir et j'ai même demandé, écoutez bien, j'ai même demandé que mon fils puisse s'asseoir à la même place que j'étais assis il y a 30 ans. » Pauvre garçon. S'il fallait qu'il soit en tout point conforme au père, qu'il fasse tout comme le père, qu'il soit assis... J'espère que le père avait retrouvé son cartable de l'époque. Ça aurait sans doute été le fils. Mais je veux dire, dans la vie, il y a des tas de préjugés comme cela. Il y a des tas de regards que les hommes portent pour ne pas changer les choses, pour rester dans le même cadre. Cela, c'est la vision de l'homme aveugle. Elle est conforme à ce qu'est la nature humaine. Alors, la deuxième vision est encore plus intéressante parce qu'elle est plus complexe. Je l'ai appelée la vision déformée ou la vision religieuse. L'homme commence à voir. Mais vous vous rappelez, nous l'avons lu, il commence à voir et il voit les hommes, mais il en voit, c'est même plus compliqué que cela, il dit « j'aperçois les hommes, mais j'en vois, donc il en voit certains, qui sont comme des arbres et qui marchent. » Cette vision est complexe. Elle est imprégnée d'un premier acte de guérison, mais qui n'est pas complet. Alors, je me rappelle une histoire en rapport avec cette vision un petit peu complexe, un petit peu déformée. Nous avions dans l'église où j'ai grandi quand j'étais jeune, un membre de l'église évangélique que je fréquentais avec mes parents et mes frères. Et nous avions également dans l'église un autre membre de l'église, un autre frère en Christ, qui était CRS. Un jour, une partie de l'église s'en va dans un grand rassemblement qui dure plusieurs jours sous un grand chapiteau dans le centre de la France. C'était une grande convention internationale évangélique. Et donc les chrétiens commencent à louer des chambres, comme j'ai entendu parler tout à l'heure. On loue des chambres à l'avance dans des hôtels de la région. Et un jour, ce brave homme de notre église, qui, je dois le dire, voyait un petit peu mal, et entendait mal. Je ne dis pas qu'il était vieux, parce qu'il avait sans doute l'âge que j'ai maintenant. Pour moi, il était vieux à l'époque, mais moi, je suis jeune maintenant. Moi qui ai son âge. Alors, cet homme était assez particulier, il était très impulsif. Il s'énervait facilement, il était impatient, généralement. Et quand il conduisait sa voiture, sa femme, assise à côté de lui, priait tout le temps. Parce qu'il conduisait très vite, bien que voyant pas très bien, et entendant pas très bien non plus. Bon. Et alors ce jour-là, après le culte du matin, à cette convention internationale, il décide de rentrer à l'hôtel, et à l'hôtel, il rentre dans le hall de l'hôtel, et il voit un CRS. Il faut dire une chose, c'est qu'il y avait quand même quelques CRS pour assurer la sécurité dans ce grand rassemblement. Il voit un CRS, et tout de suite, emporté comme il est toujours, il fonce vers le CRS, il le prend dans ses bras, il l'embrasse. Puis il se recule et il se rend compte qu'il n'a pas embrassé le bon CRS, celui qui était membre de l'église comme lui. Alors il dit « Oh, excusez-moi, je vous avais pris pour un autre. » Cette histoire est toute simple et beaucoup plus drôle que la première, montre que lorsqu'on ne voit mal, on peut prendre des risques et on risque fort de se tromper. Bon, ce n'est pas grave d'embrasser un CRS, même si le CRS a dû se demander ce qui lui arrivait. Parce que c'est rare quand même qu'on embrasse des CRS comme cela dans la rue ou en public. Ce serait bien, mais bon, c'est pas forcément une chose que l'on voit souvent. Et cette vision est curieuse. L'homme voit, comme mon ami voyait, mais il ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Et je crois que, sans prendre beaucoup d'exemples, parce qu'il y en a différents exemples dans la Bible et dans la vie courante, c'est la vision de l'homme qui a été touché par Jésus, mais probablement qu'il ne s'est pas laissé toucher complètement, ou qu'il ne fait pas entièrement confiance à Jésus. Je prends un exemple dans la Bible. Un jour, Jésus et ses disciples veulent traverser un village de Samaritains. Jésus venait de la Galilée, au nord du pays d'Israël. Au sud, il y a Jérusalem. Et entre les deux, il y a une région qui s'appelle la Samarie. La Samarie était alors peuplée de gens, qu'on appelait bien sûr les Samaritains, mais qui étaient d'origine à la fois juive et à la fois non-juive. Et donc, entre eux et les Juifs, qui eux se réputaient juifs à 100%, il y avait une grande animosité, parce que les Juifs considéraient que les Samaritains n'étaient pas des vrais Juifs. Et ils n'avaient pas de contact entre eux, ils ne faisaient aucune affaire entre eux, c'est l'Évangile même qui le dit. Alors, de Jésus, on voit certains disciples devant lui, à l'avance, pour aller dans le village et réserver des chambres. Mais lorsqu'on leur demande qui ils sont, on leur demande s'ils sont juifs, ils disent « Oui, nous sommes juifs. » Et vous allez où comme cela ? Nous allons à Jérusalem. Alors, on refuse de leur louer des chambres. Les disciples reviennent vers Jésus et lui disent cela. Jésus ne bronche pas, ne dit rien. Mais deux de ses disciples, Jacques et Jean, disent « Seigneur, puisqu'ils ne veulent pas nous accueillir, est-ce que tu veux qu'on demande au feu du ciel qu'ils descendent sur eux et qu'ils les brûlent tous ?» Je rappelle, ce sont des disciples de Jésus, hein, ils sont en formation pour servir Jésus après. Bon, pourquoi je prends cet exemple ? Parce qu'il montre bien que si l'on se laisse toucher par Jésus que partiellement, et si l'on garde par ailleurs un certain nombre d'idées personnelles, un certain nombre donc de préjugés personnels, on risque de se tromper. Heureusement, Jésus n'a pas permis, puis je crois que même s'ils avaient demandé au feu du ciel de descendre, le feu ne serait pas descendu. Dieu ne fait pas tout ce que nous voulons, heureusement. Il ne répond pas, heureusement, permettez-moi de le dire exceptionnellement, Dieu ne répond pas, heureusement, à toutes nos prières, surtout celles qui sont animées d'un sentiment qui ne vient pas de lui. Mais on pourrait citer d'autres exemples dans l'Évangile de situations semblables à celle-ci, où l'homme, lorsqu'il se laisse toucher par Jésus, mais partiellement, et qu'il veut garder une partie de ses idées, de ses pensées, ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu. En fait, très souvent, quel est le problème de ces deux disciples qui ont demandé cela à Jésus ? Veux-tu que nous demandions au feu du ciel de descendre et de les brûler tous ? Ces disciples se disent, ces gens-là ne savent pas avec qui nous sommes avec Jésus. Or, si quelqu'un n'est pas avec Jésus, il est contre lui. Donc, si quelqu'un est contre lui, il faut le punir. Bon, je répète qu'ils sont en formation. La formation n'est pas terminée. Donc, il y a encore du travail. Un autre jour, plusieurs disciples disent à Jésus, « Seigneur, on a rencontré un homme qui prêche l'Évangile, qui chasse les démons, qui guérit les malades, en ton nom, mais il ne veut pas nous suivre. Alors nous lui avons dit d'arrêter. » Et Jésus dit, mais vous n'auriez pas dû, parce que s'il prêche en mon nom, il n'est pas contre moi. Celui qui n'est pas contre moi, il est pour moi. Donc celui-là, laissez-le travailler. Mais les disciples se disaient, il n'y a que nous avec Jésus. Tout ce que les autres font, ce n'est pas bon, parce que nous, nous sommes avec Jésus. C'est vrai que l'homme n'était pas avec Jésus, mais il prêchait le même évangile que Jésus au nom de Jésus. Donc c'est bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous prêchons l'évangile au nom de Jésus. Et si Jésus, même si Jésus n'est pas là avec nous, physiquement. Cela, c'est la déformation religieuse des choses. Pourquoi religieuse ? Parce qu'encore une fois, c'est la vision de ceux qui ont reçu quelque chose de Jésus, mais qui n'ont pas laissé Jésus faire tout son travail. La vraie vision, et je vais terminer par celle-là maintenant, la vraie vision, c'est la vision qui porte la marque de Dieu. Je prends un exemple. Pierre et Jean, au lendemain de la Pentecôte, montent au temple, Actes chapitre 3. Ils montent au temple et à l'entrée du temple, ils voient un homme qui est là. La Bible dit que Pierre et Jean montaient tous les jours au temple pour prier à la réunion de 15 heures. Il y avait un service le matin, un service l'après-midi à 15 heures. Ils montent pour, on va dire, la réunion de prière, pour parler notre langage. Et tous les jours, en même temps qu'eux montent au temple, tous les jours on amène un boiteux devant le temple pour faire l'aumône. Ce jour-là, Pierre et Jean voient cet homme, qu'ils voient tous les jours, mais ils le voient avec un regard nouveau. Parlons de la vision que Dieu donne. Depuis le jour de la Pentecôte, Pierre et Jean ont reçu une nouvelle vision. Le Saint-Esprit qui est venu sur eux et qui habite en eux maintenant leur fait voir les choses et les gens d'une autre manière. C'est la vision de l'homme qui a été touché par Dieu. C'est la vision de l'homme spirituel parce qu'elle lui vient de l'Esprit de Dieu. Alors ils disent à l'homme, nous n'avons rien à te donner, ni argent ni or, mais nous avons autre chose. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche, sous-entendu, parce que tu es guéri. Pierre et Jean ont reçu une nouvelle vision. La nouvelle vision, la vision parfaite qui vient de Dieu, elle part de plusieurs éléments. Elle part d'abord d'un vrai changement de vie. Ce n'est pas une vision que l'on reçoit partiellement, comme l'aveugle a reçu une vision partielle dans un premier temps. Elle part d'un vrai changement de vie. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau. » Un changement de vie radical. Cette expérience, Jésus l'a appelée la nouvelle naissance, parce que c'est comme une naissance. On naît pour vivre une vie. L'enfant qui naît va vivre une vie, je ne vais pas dire nouvelle, parce que c'est sa première vie, elle est forcément nouvelle pour lui. Il va découvrir des choses au fur et à mesure de sa vie. De même, celui qui naît de nouveau, qui passe par une nouvelle naissance, acquiert une vision qui va se développer jour après jour, mais qui est imprégnée, influencée par Jésus. Deuxièmement, cette vision spirituelle, elle intègre intégralement toute l'œuvre de la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'apport d'une religion ou d'une nouvelle philosophie. Ce n'est pas que nous avons quelques idées nouvelles. C'est un changement total. Je prends un exemple. Le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, raconte l'histoire d'une petite fille qui a vécu un drame. Elle habitait en Israël, au nord d'Israël, et un jour les armées du roi de Syrie ont envahi le pays, et parmi d'autres prisonniers, cette petite fille a été emmenée prisonnière. Et on l'a donnée à la femme du général en chef des armées, qui s'appelait Naaman. Cette petite fille est devenue la servante de la femme du chef des armées de Syrie. Or, un jour, quelque temps après, ce général découvre, probablement en prenant sa douche, qu'il a des choses bizarres sur la peau. La Bible dit qu'il a découvert qu'il avait la lèpre. Quand la petite fille, qui avait probablement entre 10 et 15 ans maximum, vu le mot hébreu qui est employé pour la désigner, quand la petite fille apprend cela, elle dit « Mais moi, je connais quelqu'un dans mon pays qui peut guérir le général. » Et le général se renseigne, il va en Israël, sans son armée cette fois-ci, ou avec quelques soldats pour son escorte, il rencontre le prophète qui guérit au nom de Dieu, et il est guéri parce qu'il obéit aux ordres de ce prophète qui lui avait dit d'aller se laver, se plonger dans le Jourdain, la rivière principale d'Israël, et il serait guéri. Pourquoi est-ce que cette histoire est importante pour nous ? Parce que nous parlons de la nouvelle vision que Dieu donne. Cette petite fille aurait eu toutes les raisons de se réjouir de ce que cet homme attrape la lèpre. Elle aurait pu se dire, eh bien, tant pis pour lui. Il m'a fait prisonnière. Voilà, Dieu le punit pour avoir fait du mal à mon peuple. Non, elle est enfant d'Israël. Elle fait partie du peuple que Dieu a choisi pendant la première partie de l'histoire. Donc elle pense que Dieu aime tout le monde. Elle sait que les hommes n'aiment pas tout le monde. Elle sait que les Syriens n'aiment pas les Israélites. Mais elle se dit « Dieu aime tout le monde ». Donc Dieu est capable de guérir cet homme, même s'il nous a fait du mal, et même si je suis prisonnière aujourd'hui à cause de lui. Et parce qu'elle fait cela, parce qu'elle a une autre vision, elle a la vision de Dieu. La vision de Dieu est complètement différente de la vision des hommes. La vision de Dieu nous permet de dépasser les réalités présentes. Elle nous permet de dépasser les préjugés. Elle nous permet de dépasser les traditions. Elle nous permet de dépasser les manières de faire habituelles de l'être humain pour aller plus loin. Encore un point ou deux, c'est que, encore un point pour terminer, la vision nouvelle, la vision spirituelle s'appuie sur une connaissance toujours plus grande et toujours plus profonde de la Bible. Plus nous lirons la Bible, en demandant à Dieu de nous aider à la comprendre, en demandant à Dieu de nous aider à nous parler, en demandant à Dieu de nous parler pendant que nous la lisons, plus nous comprendrons et plus nous connaîtrons Dieu, et plus nous serons imprégnés de cette connaissance pour pouvoir faire ce que Dieu veut. Dieu veut nous donner une vraie vision. Et la vraie vision, ce n'est pas celle de l'homme, ce n'est pas celle de la religion ou de la tradition, c'est la vision que Dieu seul peut donner. Parce qu'ils ont reçu une nouvelle vision le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus et ceux que l'on appelle ensuite apôtres ont découvert toute la réalité spirituelle qui est attachée à Dieu et à sa parole. Alors que Dieu nous aide à nous laisser toucher par Jésus jour après jour et à ne rien faire autrement que par la vision que Jésus donne afin que nous soyons de vrais enfants de Dieu, que Dieu puisse nous faire voir ce qu'il veut que nous voyons, que Dieu puisse nous aider à voir les autres, non pas tels qu'ils sont, mais tels que Dieu les voit. Car c'est cela qui est important et cela nous permettra de mieux travailler pour Dieu et de mieux vivre pour Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.